Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Le CAC à 8000 points, donc les marchés n'ont vraiment peur de rien, c'est clair, ils sont insensibles à la géopolitique. Leur espoir, c'est que la BCE va bel et bien baisser ses taux d'intérêt. Alors quand printemps, dit François Villeroy de Gallo. Juin anticipe une partie de la communauté financière. C'est une question qui est posée, évidemment, et qui, pour l'instant, n'a pas été abordée par Madame Lagarde après la confirmation que ses taux restaient inchangés. C'était hier. C'est la semaine à 20 milliards après la semaine à 10 milliards. 20 milliards d'euros d'économies à trouver en 2025. Il y a quelques jours, c'était 10 milliards dès cette année. Ça fait 30 quand même en deux ans. Est-ce que Bercy en fait trop ? Pas mal d'économistes le pensent, notamment, car les annonces de coupes budgétaires vont à l'encontre, c'est vrai, des engagements du gouvernement qui voulait mener une politique contracyclique. Je desserre quand ça va mal et je serre la vis quand ça va bien. Et aussi, est-ce le bon moment pour réformer l'assurance chômage ? Là aussi, il y a débat entre les économistes. L'Institut Montaigne a demandé aux Français où est-ce qu'il fallait faire des économies. Très clair pour eux, hein. Les dépenses liées au chômage et liées à la politique familiale. Et puis, c'est parti. Je ne sais plus si j'ai oublié un truc. Non, ça va. Bonjour, Fergan Aziari.
Bonjour.
Bienvenue, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Vous publiez « Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée » aux éditions Les Presses de la Cité. Gilles Berset, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'économie à Neoma Business School. Et vous avez publié « Travailleurs, mais pauvres, inégalités et lutte contre la pauvreté laborieuse » aux éditions De Buc. Hein, c'est belge. C'est ça qu'il faut le dire maintenant. Emmanuel Le Chypre.
Bonjour.
De Buc. Bienvenue, Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous.
Je ne sais pas si je vous présente, éditorialiste à BFM Business et RMC, et quelquefois aussi sur BFM TV le matin. Ils avaient une super idée ce matin sur BFM TV. Ils se demandaient si l'argent du CAC 40, c'est pas ce qui allait combler les trous des finances publiques. C'est ça, c'est génial.
Oui.
J'ai adoré ça.
Vous savez, il y a une séquence dans la matinale, enfin dans le 9-12, ouais, sur BFM TV qui s'appelle Le Duel.
Ah ben évidemment, c'est...
Voilà, et on me proposait un duel, mais qui a été annulé finalement. Mais qui était CAC 40 au plus haut, profit, CAC 40 au plus haut, finances publiques au plus bas. Où faut-il trouver l'argent ?
Bon, je ne sais pas comment je commencerai l'explication si je devais me lancer. Je vous avouerai que... vous êtes en plein dans l'actualité avec votre livre, Gilles Berset.
Absolument.
C'est vraiment la France de l'angle mort qui a été qualifiée comme ça par Emmanuel Macron. C'est le dada de Gabriel Attal depuis qu'il est arrivé. Le travail doit mieux payer. C'était un peu... c'était quoi le mot qu'il avait utilisé là ? Desmicardiser.
Absolument.
J'ai quand même fait le sujet pendant, je crois, 10 jours tous les jours... J'ai pas la solution, quoi. La désmicardisation, là, CSG social, TVA social, prime d'activité, comment on fait pour les effets de seuil, j'y arrive pas, je vous le gâche pas.
Hein. Mais il n'y a pas une solution. Il n'y a pas un bouton sur lequel il faut appuyer et qui répondrait à ce problème réel. Alors, smicardisation de l'économie, qu'est-ce qu'on entend par là ?
C'est les gens qui sont entre 2005 et 2004 et,
voilà,
ils ont le sentiment qu'ils payent pour les autres et qu'ils reçoivent rien.
Voilà, et puis beaucoup de gens, avec la forte revalorisation du SMIC qu'on a observé hein, depuis le 1er janvier 2021, 8 augmentations du SMIC pour un total de près de 15%.
Oui, oui.
14,8%.
Mais ça, on va pas le changer, ça, Gilbert. On va pas désindexer
évidemment,
le SMIC.
Évidemment. Alors,
qui avait proposé la désindexation du SMIC ou le
différemment,
là ?
C'est moi.
C'est lui, Gilbert.
Le rapport du groupe d'experts que j'ai présidé jusqu'au mois de...
C'est lui, c'est la même guichet.
Jusqu'au mois de janvier dernier. Parce que le problème, c'est pas le SMIC et son montant. Le problème, c'est que des gens restent au SMIC. Ils restent durablement. Que quelqu'un qui rentre sur le marché du travail rentre au SMIC, éventuellement d'ailleurs un SMIC plus bas, est-ce que c'est problématique ? Oui, s'il y reste très durablement. Et le problème, c'est que nos dispositifs sociaux, effectivement, scotchent les gens au niveau du SMIC. Pour donner un chiffre, encore une fois, qui est particulièrement frappant, Pour un salarié célibataire à temps plein au SMIC, s'il est éligible aux APL, eh bien, ce que l'on voit, c'est que pour augmenter son revenu net disponible de 100 euros par mois, il en coûte 483 euros à l'entreprise.
Oui, mais j'ai vu ça.
Il y a une disproportion absolument considérable.
Oui, mais la solution ne me crève pas les yeux.
Donc, quand l'entreprise veut donner un petit peu une carrière salariale, un salarié, le gain en revenu net est très faible. Pourquoi ? Parce que se superpose la dégressivité des exonérations de cotisations sociales, la dégressivité des APL, de la prime d'activité et la progressivité de l'impôt. Tout ça s'ajoute pour aboutir à cette disproportion absolument considérable entre augmentation du coût et gain en revenu net.
Oui, mais le diagnostic est impeccable. C'est les solutions moi, qui me on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, mais
Mais en tout cas, il n'y a pas une solution simple. Oui. Il y a évidemment une remise à plat des exonérations de cotisations sociales. Il faut peut-être réfléchir à l'articulation entre le CICE, le pacte de responsabilité, la dégressivité des exonérations de cotisations. C'est complexe. Il y a une d'ailleurs qui a été confiée à deux économistes sur cette question. Et puis du côté des soutiens aux bas revenus, il faut tout remettre à plat pour réduire la dégressivité de l'empilement de ces prestations. Le problème, c'est que tout remettre à plat et rebattre les cartes dans ce cas-là, ça fait des gagnants, mais ça fait des perdants. Et les perdants ne sont pas des nantis. Donc, c'est quelque chose de politiquement et socialement un petit peu difficile. Mais il faudra le faire.
100 euros d'augmentation, 483 euros pour l'employeur. Et le salarié, il a 100 euros net de plus dans sa poche. Mais entre ce qu'il perd en APL, en prime d'activité et ce qu'il doit payer en impôt sur le revenu, il lui reste un peu plus de 50, je crois. Tout comme ça. Manuel Le Chypre. Parce que vous comprenez qu'on touche les 8000 points avec deux guerres à nos portes et des incertitudes géopolitiques dans tous les sens. Les marchés ne craignent plus rien.
Alors, les marchés ne craignent plus rien. En tout cas, la géopolitique, ils ne la craignent pas. La réalité, c'est que quand vous remontez finalement aussi loin que la bourse existe et que les guerres existent, vous apercevez que ça a quand même globalement des impacts très limités. Je rappellerai juste, si vous cumulez la hausse du Dow Jones pendant les deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45, vous arrivez à 150 ou 160% de hausse. C'est caricatural. Mais la réalité, c'est que comme on est rentré en plus dans une période qui n'est plus une période de chocs globaux comme ceux qu'on a connus au cours des dernières années, mais qui sont des chocs locaux, ce sont des chocs qui n'ont pas d'impact globalement sur les marchés.
Non, mais c'est vrai, il n'y a même pas eu d'impact sur le baril de pétrole qu'on pouvait malgré tout redouter des régions touchées.
Donc ça, c'est une raison qui est évacuée. Après, c'est vrai quand même que quand on met tout bout à bout, c'est-à-dire non seulement la géopolitique, le Covid, etc., sur les dernières années, le parcours est spectaculaire. Et en même temps, quand vous êtes dans une période d'invention, de bouleversement technologique, de révolution, vous avez toujours des tas d'incertitudes, des tas d'espoirs qui génèrent des phénomènes de marché assez exceptionnels, surtout quand vous êtes aussi dans une période de surabondance de liquidité. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous mettez bout à bout, parce que c'est même pas le fait... Moi, ce qui me passionne le plus, que je trouve le plus atypique encore, c'est pas tellement que le CAC batte des records dans ce monde assez incertain, c'est que vous avez aussi des phénomènes atypiques qui font que, par exemple, voir les marchés boursiers et l'or atteindre des sommets historiques au même moment.
Et c'est pas normalement comme ça que ça se passe.
Non,
et le Bitcoin avec.
Et voilà, puisque l'or est normalement un placement refuge. Et ce que vous voyez, c'est que finalement, vous avez alors cette période surabondance de liquidités plus tout un tas d'incertitudes. C'est quoi les paris gagnants? C'est un moment comme on en connaît parfois qui est du on achète tout. Et ça, c'est buy everything, c'est-à-dire en gros, comme on ne sait pas ce qui va marcher, on achète tout et on est un peu dans ce moment-là. Et puis après, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a des raisons spécifiques pour lesquelles l'or monte et des raisons spécifiques pour lesquelles les crypto-monnaies montent sur des bourses qui, à part les valeurs liées à l'intelligence artificielle, où là, il y a un vrai emballement, il y a beaucoup d'autres secteurs pour lesquels les valorisations sont pas délirantes.
Alors, ce qui fait monter l'or, a priori, c'est la même raison que pour les marchés actions, c'est la perspective d'une baisse des taux. Regardez ça comment
perspective,
vous le savez,
puis forte demande d'or aussi des banques centrales.
Oui, alors forte demande des banques centrales, et on se dit que ça y est, la baisse des taux, c'est maintenant, et pour vous, c'est quoi l'idée? Comment elle doit s'écrire l'histoire de la baisse des taux? Parce qu'en fait, printemps, peut-être le mois de juin. Il y a cette spéculation qui est là, une espèce de course à la bonne date, celui qui réussira à déterminer quand est-ce que la Banque Centrale Européenne considère que l'inflation sous-jacente s'est réglée, que la menace de hausse de salaire s'est réglée, que la bataille contre l'inflation s'est réglée, que la cible de 2% est retrouvée et qu'on peut baisser les taux. La BCE nous dit, moi j'attends d'avoir des données.
Absolument.
J'arrête de faire de la perspective sur le long terme, un peu au doigt mouillé, j'attends des chiffres. Les chiffres des salaires, ce sera mai. Les chiffres des comptes nationaux premier trimestre 2024 de la zone euro, ce sera juin.
Voilà. Tout à fait. C'est une démarche prudente, d'ailleurs, qui est assez identique à la démarche de la Fed. Hein, la similitude de discours entre la Fed et la BCE est d'ailleurs très, très, très forte dans ce domaine-là. La politique monétaire sera data-dependent. Ça va dépendre des données. Les données, pour l'instant, sont bonnes. Il faut le confirmer encore par des données de salaire qui montreraient que l'inflation salariale ne s'emballe pas. Pour l'instant, on voit quand même que l'inflation dans les services pour lesquels le coût salarial est le principal facteur de prix, hein, de coût de production, l'inflation dans les services ne baisse pas considérablement.
On est proche des 4 encore, voilà, dans les services en zone euro.
Ce qui évidemment nous amène peut amener à penser qu'il peut y avoir un risque salarial. On ne peut pas l'exclure complètement. Alors, voilà. Pas d'emballement, mais en tout cas de petite accélération. Et les dans ce contexte, tout à fait logique que les banques centrales aient une certaine prudence.
Faut pas se louper
quand on calendrier, voilà, de la baisse.
Le moment où on décide de baisser, faut pas.
Voilà, le pire pour une banque centrale en termes de crédibilité, ça serait de baisser pour devoir augmenter ensuite un tout petit peu après. Donc il faut la certitude pour les banques centrales d'un processus désinflationniste bien engagé pour se mettre à baisser les taux. Mais le discours, en tout cas, est clair. Elles sont prêtes à baisser les taux si les données confirment qu'effectivement l'inflation salariale n'est pas au rendez-vous.
On parlait du Bitcoin, Fergan Azeri, c'est la revanche des cryptos. Là, c'est le Fergan Day.
Fergan Day, je ne sais pas, mais c'est vrai que la performance du Bitcoin contraste avec tous les discours pessimistes que l'on entend depuis finalement la création de cet actif. Il y a encore quelques semaines...
2009, à peu près.
Il y a encore quelques semaines, la Banque Centrale Européenne se fondait d'une publication complètement incendiaire contre cet actif qui ne vaut rien et qui, dit-elle, n'est pas une monnaie. Bon, je crois que... quelles que soient d'ailleurs nos prises de position sur le Bitcoin, parce que moi je peux tout à fait entendre que les économistes keynésiens qui tiennent à l'existence d'un monopole monétaire, d'une banque centrale avec tous les pouvoirs sur l'économie, soient sceptiques à l'égard d'un instrument qui a été précisément inventé pour affaiblir le pouvoir des banques centrales. C'est ça finalement le Bitcoin, puisque...
Oui, enfin, ça c'est le message, mais... le côté libertarien de la crypto-monnaie, tous les gens que je connais aujourd'hui qui sont tous jeunes et qui parient sur les crypto-monnaies, ils parient pas en se disant acheter une monnaie.
Je ne parle pas de crypto-monnaie au pluriel. Attention, parce que toutes les crypto-monnaies ne se valent pas.
Oui, on est d'accord.
Il est important de le rappeler. Ce qui fait la spécificité du Bitcoin, il faut rappeler en quelques secondes, c'est le caractère limité des émissions.
21 millions d'unités,
c'est gravé dans le marbre, donc il y a la garantie effectivement que celui qui détient du Bitcoin ne sera pas surpris par une poussée inflationniste, parce que vous avez donc une émission monétaire qui est parfaitement lisible. C'est le caractère décentralisé, c'est le caractère aussi incensurable du protocole et des échanges. C'est-à-dire que finalement, le Bitcoin, c'est une volonté de restaurer une espèce d'étalon or numérique.
Je comprends l'idée.
Soit effectivement affranchi de la tentation de la planche à billets. Dès lors que l'on comprend ça, on comprend que cet actif, il est parti pour rester, il est parti pour durer. Alors, est-ce à dire qu'il va s'imposer comme moyen d'échange courant? Ça, je ne sais pas, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, c'est un actif qui tend à s'institutionnaliser de plus en plus, c'est-à-dire à être considéré finalement comme un moyen de placement. Alors, certes risqué, encore très volatile parce que la communauté est très petite et donc le fait que le marché soit très petit fait qu'au moindre mouvement d'achat ou de vente massive, vous avez des variations de prix qui sont assez fortes. Mais à mesure que la communauté s'étend, nous allons nécessairement vers une espèce de stabilisation de l'actif et je pense que c'est la direction que nous prenons. Ceci dit, vous savez, pour les banques centrales qui craignent vraiment la domination du Bitcoin, il y a un moyen très simple finalement d'anéantir la valeur ajoutée de cet actif, c'est d'administrer une monnaie saine, puisque je le dis, le Bitcoin c'est une réponse à la politique des banques centrales.
C'est quoi une monnaie saine, administrer une monnaie saine? S-A-I-N-E, hein, c'est ça, hein.
Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire ne pas faire de l'inflation, manipuler la monnaie de manière outrancière, ne pas faire de planche à billets, ne pas dévaloriser la monnaie comme c'est le cas dans les pays occidentaux depuis la fin de l'étalon or. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire du XXe siècle, depuis la fin de l'étalon rare, nous avons effectivement une inflation qui fait que nous avons des monnaies qui perdent petit à petit de la valeur, et c'est contre ça la philosophie du Bitcoin.
J'entends la philosophie.
C'est riche.
Est-ce qu'on est en train de faire mentir les Cassandres,
mais le chiffre, moi, ce qui me frappe, c'est à travers les deux discours, de celui de Gilbert et celui de Fergan, c'est quand même le conservatisme, voire la ringardise des banques centrales. C'est-à-dire que quand je vous entends, Nicolas et Gilbert, nous dire qu'elles attendent tranquillement à leur bureau que tombent les statistiques pour savoir où on en est sur les salaires, sur l'inflation, etc. Moi, j'ai grandi à une époque où le rôle des banques centrales, c'était justement d'anticiper les tendances et de prendre des décisions de monnaie, de politique monétaire, dont elles savaient qu'elles avaient un impact à 9, 12, 18 mois, et qu'on est là, on attend de voir où on en est vraiment pour prendre des décisions qui vont avoir un impact plus tard. Alors que l'impact de la hausse, il est à peine encore perceptible. Donc moi, j'avoue que je suis assez inquiet de ça. Il n'y a aucune incertitude sur les perspectives d'inflation à un ou deux pouillèmes de points près. Donc voilà. Et moi, je pense que c'est une erreur de dire avril ou juin, c'est pas grave. Je pense que le premier signal de la baisse des taux, il est très important. Que on ne peut pas déconnecter nos décisions de politique budgétaire du niveau de la politique monétaire, et attention à pas rentrer dans un policy mix qui soit beaucoup trop restrictif, parce que la baisse des taux aura été trop tardive et que le resserrement budgétaire interviendra à un moment où la conjoncture est un peu flagellante. Donc moi, j'avoue que je suis très inquiet, et je suis aussi inquiet du conservatisme intellectuel, notamment sur les sujets des crypto-monnaies. C'est comme si, si vous voulez, et c'est une conversation qu'on a souvent avec Jean-Marc Daniel, le statut de monnaie, ça se décrété au départ. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes une monnaie si vous remplissez les fameux critères traditionnels d'être un instrument d'échange, d'être un instrument une réserve de valeur. Mais bon sang de bonsoir, ce statut, il n'est pas acquis dès le départ. Ce statut, il se conquiert.
C'est un processus, tout à fait.
Ce statut, il se gagne. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la tendance fondamentale du monde entier, de l'économie et de toute notre vie, c'est quand même une informatisation qui est inarrêtable. Nous sommes dans une informatisation générale du monde. Et au nom de quoi la monnaie échapperait à cette informatisation ?
Le fait que la monnaie soit informatisée, pas informatisée,
non, mais c'est bien la question de la monnaie. Parce que ça pose aussi la question des intermédiaires, etc., comme l'a dit Fergan. Donc l'informatisation de la monnaie, moi, c'est un process qui me paraît assez inéluctable.
Ça s'appelle l'euro numérique.
Et que...
c'est centralisé, là, c'est pas la même chose.
Moi, honnêtement, si quelqu'un est capable de m'expliquer l'intérêt des euros numériques ou des dollars numériques, je suis preneur. J'ai toujours pas très bien compris. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'expliquait la valeur ajoutée de ça.
Et donc moi j'ai des réponses.
Et donc pour terminer, voilà, c'est-à-dire on voit bien que les cryptos et le Bitcoin, ça gagne de plus en plus de gens. Donc ça va devenir une monnaie d'échange. Donc ça va devenir une monnaie de réserve. Après des soubresauts, après des tumultes, après qu'il y ait des réglementations,
après des échecs, des erreurs,
et voilà, une pause. Mais ça paraît quand même assez inéluctable.
On marque une pause. Gilbert réagira dans un instant. Après, on fera la semaine à 20 milliards, après la semaine de 10 milliards. Avec un euro numérique, à la limite, tu peux te passer des banques commerciales. Avec un euro numérique, tu peux faire de l'hélicoptère monnaie en 5 minutes si tu as envie de faire de l'hélicoptère monnaie. Avec un euro numérique, tu peux imposer à un mec à consommer. Tu lui dis ton euro numérique, il crève en fin décembre. Tu le consommes avant fin décembre, sinon.
C'est génial comme perspective.
C'est génial, ça.
Voilà, mais ça va réjouir.
D'une monnaie saine.
Et avec un euro numérique, avec un euro numérique, tu peux envisager la fin du cash sans l'avouer tout de suite. Bon, on marque une pause. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Fergan Ezehari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, qui a publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux éditions Les Liens, Les Presses de la Cité. Non, pas Les Liens qui libèrent. Gilbert Sept, professeur d'économie à Neoma Business School, auteur de Travailleurs mais pauvres, inégalités et lutte contre la pauvreté laborieuse aux éditions De Buck. Et il y a cet auditeur CMN qui écrit excellent bouquin de Gilbert Sept, qui montre que le manque de travail crée la pauvreté. Il faut augmenter le taux d'emploi des Français, écrit.
Merci.
Voilà. Et Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business et BFM TV et RMC et voilà.
Ouf. Et c'est tout.
Il y a Romain qui écrit ouf. Plateau de droite ce matin. Les marges n'ont jamais été aussi hautes. Voilà pourquoi le CAC est haut. On va dire après que les entreprises galèrent, pas toutes, dit-il. Et puis il y a Jean-Sébastien.
Il y en a 40 qui galèrent pas.
Ouais. 8 euros sur 10 gagnés en France.
Pour presque 3 millions d'autres, c'est pas aussi facile.
Pour désmicardiser, m'écrit Jean-Sébastien, il faut augmenter le seuil des 1,6 progressivement tout en supprimant les subventions à l'inactivité. Vous vouliez réagir à ce qu'on avait dit. On n'avait pas les cryptos, d'euro numérique. On a parlé de la politique monétaire. Finalement, a-t-elle été inefficiente pour lutter contre l'inflation qui n'était pas liée à un excès de demande, mais à un problème d'offre?
La politique monétaire ne peut pas tout, mais elle contribue beaucoup à ce qui se passe du côté de l'inflation. C'est pas le seul effectivement déterminant de l'inflation, mais elle y contribue beaucoup. La politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique a été au rendez-vous pour soutenir l'économie dans des moments de crise intense, crise sanitaire. Et ensuite choc inflationniste, surtout en Europe. Mais la politique monétaire doit être également au rendez-vous pour nous prémunir d'une inflation qui pourrait s'emballer. Donc pour l'instant, le discours des banques centrales est tout à fait clair. Alors maintenant, est-ce qu'on doit faire toute une histoire du fait que la baisse des taux, la première baisse des taux pourrait avoir lieu en juin plutôt que dès avril, comme le préconise, comme l'appelle
le gouverneur portugais. Il avait dit qu'il faudrait que ce soit mars.
Je ne crois pas. Le pire risque pour une banque centrale, c'est le risque de crédibilité, de la perte de crédibilité. L'inquiétude, c'est de ne pas attendre. C'est ce qui peut se passer du côté des salaires. Si emballement des salaires il y a, le risque d'inflation interne serait très très fort. Et l'image du dentifrice est habituelle. Quand le dentifrice sort du tube, c'est très dur de le faire rentrer dans le tube. Donc c'est ça le risque maximum contre lequel faut se prémunir. Du côté des crypto-monnaies, quand même, j'aurais juste rajouté un point. La description qui a été faite par Fergan tout à l'heure, on pourrait la faire aussi pour des timbres postes. En se disant, c'est pas un actif spéculatif digital.
C'est plus difficile de produire du Bitcoin que des timbres.
L'avantage du Bitcoin, c'est que c'est digital. Hein, on n'a pas besoin de le faire bouger physiquement, en quelque sorte, le Bitcoin, pour le passer d'un individu à un autre. Néanmoins, c'est un actif spéculatif. Et je trouve que le discours des banques centrales à cet égard, et de la BCE à cet égard, est très, très bon et très, très clair. Attention, c'est spéculatif.
Mais comme tout actif.
C'est
pas Madame Lagarde, mais quand
il y a un forex, il y a des monnaies, on spécule.
Absolument. Et quand il y a des très fortes spéculations de la valeur de cet actif, faut quand même mettre en garde les ménages. Attention, ça augmente parfois très fortement. Ça baisse très fortement. Il y a des gens qui se retrouvent à poil.
Je crois que c'est Madame Lagarde qui avait dit le Bitcoin, ça ne vaut rien. Je sais plus si c'est elle.
Actif spéculatif, ça n'est pas une monnaie.
Bon. Voilà. Moi, j'ai deux remarques. Je pense que
pour finir là-dessus, Fergan.
Est-ce que c'est une question à Gilbert Sept. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu pompier pyromane quand on parle des banques centrales? Moi, je lisais un article de Jean-Claude Trichet dans la revue Commentaire il y a quelques mois, dans lequel il admettait que les banques centrales avaient leur part de responsabilité dans l'inflation actuelle, c'est-à-dire que c'était évidemment pas la seule variable, c'est-à-dire que pendant des années, on a dit que le risque c'était la déflation, donc on a fait de la planche à billets pour contrer ce prétendu risque de déflation. Aujourd'hui, on a de l'inflation et on nous explique que les banques centrales doivent nous sauver de l'inflation. Est-ce qu'il n'y a pas un côté pompier, pyromane, quand on regarde la situation actuelle? Et est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité dans les banques centrales qui tantôt prétendent nous sauver d'une chute des prix? Ce qui, moi, m'a toujours semblé un peu étrange, parce que j'ai vu beaucoup de gilets jaunes s'inquiéter de la hausse des prix. Je n'ai jamais vu de gilets jaunes manifester contre la baisse des prix.
Fergan, la déflation au sens macro du terme, c'est pas simplement la baisse des prix. C'est un processus un peu destructeur et annihilant.
La déflation, quand vous regardez l'histoire de l'économie, les économistes au 19e siècle vous disent que vous avez la deuxième moitié d'une période de déflation en Occident, ça n'a jamais été un problème pour la croissance industrielle. Alors, Certes, aujourd'hui, vous avez des rigidités, vous avez des, un système politique qui est différent et qui fait que la baisse des prix serait beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce que vous avez le SMIC, parce que vous avez les syndicats, vous avez pas mal de rigidités en matière de liberté contractuelle, ce qui fait qu'on ne peut plus ajuster aussi facilement les contrats à la baisse comme on faisait dans le passé. Mais historiquement, on peut tout à fait... et d'ailleurs, c'est l'intérêt même du capitalisme que de baisser les prix. Donc, c'est ça que
moi, pyromane, moi, je pense que la réponse est oui, mais je ne sais pas ce que Gilbert pense.
Il y a une vaste littérature économique qui nous montre que une inflation pas assez forte, c'est un coût économique, effectivement, compte tenu de la rigidité des salaires. C'est-à-dire que les prix relatifs ne peuvent pas se mettre au bon niveau les uns par rapport aux autres.
Cette rigidité, elle est fabriquée.
Et puis, par ailleurs, une inflation trop forte a également un coût. Donc, l'idée, c'est de bouger autour, de façon proche, d'une inflation qui serait considérée comme optimale. Les banques centrales considèrent que le bon niveau d'inflation, la bonne stabilité des prix, comme elles disent, c'est 2% d'inflation par an. Est-ce que c'est vraiment le bon chiffre, pas le bon. En tout cas, les banques centrales sont d'accord sur ce chiffre. Elles ont lutté contre une inflation trop faible pendant 10 ans avec un certain succès, mais néanmoins, elles ne sont pas arrivées d'elles-mêmes à faire repartir l'inflation entre 2008 et 2019. Aujourd'hui, l'inflation, les risques inflationnistes sont assez fortes. Et là, le dentifrice pourrait sortir du tube. Elles font leur boulot. Elles ont été constituées pour cela avec une indépendance qui est uniquement mobilisée à cette fin. C'est leur fonction, c'est leur rôle qu'on leur a demandé en toute indépendance.
C'est des raisonnements à l'ancienne. Les banques centrales, elles ont fabriqué la pire des inflations depuis le milieu des années 80, qui est qu'en fait, en s'aveuglant sur ces 2% d'inflation qui n'avaient pas forcément de sens, elles ont tellement créé de liquidités qu'elles ont créé l'inflation, alors pas dans Main Street, mais à Wall Street. C'est-à-dire que l'euphorie financière des 30 dernières années, elle a été fabriquée par les banques centrales. Donc ce capitalisme financier, il a été fabriqué par les banques centrales. Donc oui, il y a bien un côté pompier-pyromane. Et puis, excuse-moi, pour revenir encore à cette dernière vague d'inflation qui a, pour la première fois depuis 40 ans, finalement retrouvé Main Street, comme on dit, il n'y a aucun des motifs qui explique la flambée d'inflation qui était lié à des raisons sur lesquelles les banques centrales peuvent avoir un impact. Donc, dire après, il y a un risque d'emballement de l'inflation maintenant, aujourd'hui, etc.
C'est une variable parmi d'autres.
Mais Emmanuel, le risque contre lequel elle voulait se prémunir, c'était pas évidemment le choc d'offre que toutes les économies ont connu suite à l'engagement dans la guerre, l'augmentation des prix d'énergie. C'est la transmission de ce choc d'offre au salaire.
Gilbert, on va poser la question autrement.
C'est ça le risque.
Elle n'aurait rien fait. Elle n'aurait rien fait, les banques centrales. Est-ce que l'inflation ne ralentirait pas comme elle ralentit aujourd'hui?
Personne ne pourra répondre de manière certaine.
On a restauré les chaînes de production mondiale, etc.
C'est une variable parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on peut se dire que toute chose égale par ailleurs. Je ne vois pas comment on peut nier.
Si elle n'avait rien fait. J'arrive pas à avoir une réponse certaine sur le « si elle n'avait rien fait ». Que se serait-il passé si elle n'avait rien fait ?
Est-ce que les prix de l'énergie n'auraient pas rebaissé ? Si, ils auraient rebaissé.
On ne parle pas des prix de l'énergie, là.
Aurions-nous eu de l'inflation s'il n'y avait pas eu l'inflation alimentaire.
Oui, mais c'est pareil, faire gaffe.
L'inflation énergétique, c'est quand même ça qu'a fait.
Non, t'es de mauvaise foi, là. T'es de mauvaise foi. On ne parle pas des prix de l'énergie, on parle de la transmission.
Mais l'inflation, elle était où ? Elle était sur l'alimentation, elle était sur le fret maritime, sur l'énergie, etc. Tout ça aurait rebaissé de toute façon avec le rétablissement des conditions normales
de fonctionnement. C'est d'autres choses dont il est question, Emmanuel.
Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui...
C'est d'autres choses. Là, t'es de mauvaise foi. C'est d'autres choses dont il est question. C'est la transmission de salaire dont on veut se prémunir. C'est ça dont on veut se prémunir.
Et tes camarades du FMI, ça arrive quasiment jamais.
Quand ça arrive, c'est dangereux. Ouais. Voilà. Et moi, je suis plus inquiet dans un pays comme les États-Unis, tu vois, du gâchis du policy mix aux États-Unis, où tu as une politique budgétaire qui est très allante. Très très allante, l'IRA en est une manifestation, et une politique monétaire qui est restrictive pour éviter justement une transmission au salaire. Et là, c'est un policy mix qui coûte des fortunes et des fortunes aux contribuables dans cette contradiction. Alors, en Europe, on n'est pas dans cette contradiction.
Bah non, on aura les deux, la double restriction, mais c'est heureux pour éviter cette transition.
Que ces pompiers pyromanes, je vous rappelle la formule que m'avait mis sur la page d'accueil d'un de ses bouquins, Patrick Artus. Le bouquin s'appelait La folie des banques centrales, il avait écrit à la main dans dans la dédicace. La prochaine crise arrive, la BCE l'organise.
Gilbert, mais là, pareil. Gilbert, c'est pas la Banque de France qui l'a travaillé, c'est à la Bundesbank.
Pareil. On fait le contrefactuel. Allez, il n'y a pas 2012, il n'y a pas Watergate Tax. On est où après? On est où 5, 6 ans après? Est-ce qu'il fallait... C'est toujours pareil. Est-ce qu'il fallait faire la politique monétaire du quantitative easing?
Oui,
si
on l'avait mais pas, le problème, c'est qu'on
si l'avait pas fait.
C'est comme les politiques budgétaires. C'est-à-dire que, bien sûr que oui, il fallait assouplir au moment de la crise de 2007-2008.
Mais il fallait resserrer plus tôt. Bon.
Et le problème, c'est qu'on ne resserre jamais. Ouais. Et qu'on ne resserre jamais.
La semaine à 10 milliards.
Oui, on ne sert jamais, mais...
Le mais pas au bon, ou pas, ou pas au bon moment.
Tu critiques voilà. Le serment.
La semaine à 10 milliards, Fergan, et la semaine dernière, puis la semaine, cette semaine à 20, là. Vous avez vécu ces 15 jours comment? Ça y est, la France reprend en main ses finances publiques. Elle envoie des signaux de sérieux budgétaire. Pour la première fois, peut-être, nous allons être en capacité de dépenser moins d'euros l'année suivante que l'année précédente. Ou alors vous dites, comme certains, Bercy en fait trop, c'est pas le moment.
Ah non, non, je pense pas que Bercy en fasse trop. Moi, simplement, je ne crois pas à la crédibilité de la parole du ministre. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous parle de rétablir les comptes publics et on voit bien que les finances publiques n'intéressent personne dans ce pays. Que lorsqu'on parle de rétablir quoi, l'équilibre budgétaire en 2030, en 2040 ou au 23e siècle,
équilibre,
c'est ça maintenant.
L'équilibre budgétaire, j'ai pas de date
donc,
en tête.
Voilà, personne ne date en tête. Et par ailleurs.
Bah, 64 ans.
Oui, manière, dans le dernier, oui, mais le prochain.
Et quand on voit la manière dont on traite la question des dépenses publiques, c'est-à-dire que là, on parle de faire des économies, on veut faire les fonds de tiroir, on veut rationner la recherche, la défense. Et puis, on ne parle pas du premier poste budgétaire dans ce pays.
Ah bah salarial ?
Non, c'est pas ça.
Et les retraites ?
Eh bien oui, ce sont les retraites qui constituent le tabou. Et d'ailleurs, vos confrères des Échos, là, hier ou il y a deux jours, ont rapporté les propos d'Emmanuel Macron, qui s'est, paraît-il, emporté contre les ministres qui oseraient mettre le sujet des retraites sur la table en leur disant que s'ils voulaient perdre des élections, c'est la meilleure manière de procéder.
Il a renoncé à la sous-indexation en 2025. Résultat, que Thomas Cazenave avait évoqué.
Tout à fait. Il faut quand même rappeler quelques données. 60% de l'augmentation des dépenses publiques ces 60 dernières années sont imputables au seul poste des retraites.
60%.
60%. Donc les retraites expliquent la majorité de l'augmentation des dépenses publiques ces 6 dernières décennies. Alors d'aucuns diraient que c'est la conséquence du vieillissement de la population, des dynamiques démographiques. C'est partiellement vrai, mais partiellement seulement, parce qu'on aurait tout à fait pu imaginer, parce que les dynamiques démographiques, le vieillissement, tous les pays occidentaux et européens sont confrontés à ce même phénomène. Simplement, les dépenses publiques n'augmentent pas aussi rapidement dans ces pays-là. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a des pays qui ont fait le choix de miser davantage sur l'épargne retraite. Et puis, il y a des pays comme nous qui ont méprisé toute forme de prévoyance. Et donc, on a fait le choix de faire reposer le financement des retraites quasiment exclusivement sur la répartition. Et ce système est en train de se retourner contre les actifs qui, je le rappelle, constituent une catégorie plus pauvre que les retraités. Et c'est là le paradoxe, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne demande pas d'efforts à la catégorie sociale la plus riche du pays, parce que les retraités forment la catégorie sociale la plus riche du pays, ont un niveau de vie plus élevé que celui des actifs, ont beaucoup plus de patrimoine que les actifs, ce qui est parfaitement normal, parce que quand on vous avait épargné pendant 40 ans,
oui, bah,
il est normal que vous ayez plus de patrimoine que le nourrisson qui vient de naître ou que le jeune qui entre à peine sur le marché de l'emploi. Néanmoins, il y a quand même un problème, c'est que ces retraités ne se contentent pas seulement de vivre du fruit de leur épargne légitimement accumulée tout au long de leur vie active, mais que le système de retraite par répartition tel qu'il est conçu fait que ces retraités siphonnent environ 28%, 30% en moyenne des revenus et de l'épargne de jeunes actifs qui sont par définition beaucoup plus pauvres que...
Donc or, vous pensez qu'il aurait fallu, dans les efforts à fournir pour 2025, qu'il y ait une part...
Le simple fait qu'aujourd'hui, aucun parti politique, ni à gauche, ni à droite, ne met la question des dépenses de retraite sur la table en disant voilà,
c'est pour des raisons politiques.
Ben c'est pour des raisons politiques, mais c'est pour de mauvaises raisons, parce que on part du principe que l'électorat, que les seniors finalement seraient des électeurs complètement égoïstes qui ne seraient
c'est pas ça,
qui ils seraient sont motivés par aucun altruisme intergénérationnel. Je pense qu'on essentialise un peu vite les seniors, bon. Qu'il y a un véritable altruisme intergénérationnel chez les seniors. La preuve, c'est que c'est la catégorie qui épargne le plus. Et pourquoi les seniors épargnent-ils beaucoup? Parce que d'une part, ils ne veulent pas dépendre, ils ne veulent pas être à la charge de leurs enfants et de leurs petits-enfants, et ils veulent transmettre aussi leur patrimoine à leurs enfants. Mais je pense qu'il faut dire à cet électorat, si vous voulez vraiment aider vos enfants et vos petits-enfants.
Serrez-vous la ceinture.
Bah, serrez-vous la ceinture et baissez, réclamez une baisse des dépenses de retraite.
Alors, bah, Gilbert, là, par rapport à ce qu'a dit Fergan et les 15 jours à 30 milliards qui sont le thème chapeau.
Sur la France est victime pour ses finances publiques de ses incuries. Ces incuries, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les choses vont bien, on ne fait pas des réserves, en quelque sorte. On ne rétablit pas les finances publiques. On est toujours au taquet. On est toujours au taquet, ce qui nous amène évidemment dans des moments de retournement, de ralentissement conjoncturel, à ne plus pouvoir soutenir l'activité parce qu'on est au taquet en termes de finances publiques. Pourquoi cette recherche...
On est au taquet sur les dépenses et sur les prélèvements.
Pourquoi cette recherche d'économie de la part du gouvernement et de la part du ministre de l'économie? Eh bien, tout simplement pour respecter des engagements en termes de déficit public qui sont les plus mauvais parmi les pays de la zone euro.
Clairement, là,
je veux dire, c'est pas pour être vertueux au-delà du raisonnable. C'est parce que nous sommes un pays qui n'a pas de réserve, en quelque sorte, de coussin de protection.
Ce qui me frappe, là, c'est que
de sécurité.
On a eu l'habitude de se moucher avec nos engagements, et là, on a l'impression qu'on flippe un peu à Bercy sur le déroulement du budget 2024. Parce que j'ai rarement vu une mobilisation aussi rapide et aussi intense autour de montants aussi importants en cours d'année, quitte même à aller plus vite que
Loi de finances. Je ne vais pas faire de la psychologie, mais en tout cas, ce qui est en train d'être fait, la résultante, effectivement, d'une gestion des finances publiques qui, quel que soit le gouvernement, hein, sur les dernières décennies, il ne s'agit pas de faire porter la pierre au gouvernement actuel. Tous les gouvernements qui se sont succédés sur les 40 dernières années ont pratiqué une incurie complète. Pour les retraités, quand même, pour les retraités, excusez-moi, il faut quand même mettre les choses à plat. Je rassure Fergan, les projections, quelles qu'elles soient, même les plus optimistes, montre qu'il va y avoir une dégradation du niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs sur les prochaines années, sur les prochaines décennies, à l'horizon 2070. Toutes les projections dans ce domaine. Donc, il faut quand même voir ces réalités. Ça, c'est la première chose. Hein. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, le niveau moyen des retraités, niveau de vie moyen des retraités est supérieur, légèrement supérieur à celui des actifs et de la population moyenne. Pourquoi ? Aussi parce qu'il n'y a plus de bouche à nourrir. Oui. Je veux dire, il n'y a plus de bouche à nourrir.
C'est-à-dire,
le retraité, il touche sa retraite pour lui, en général. Pour lui, en général. Mais il n'a plus d'enfants, il n'a plus, etc., etc. Voilà.
Je rappelle que nous avons cotisé pendant 40 ans, me dit un auditeur.
Non, il n'a pas cotisé pendant 40 ans. Il a payé des cotisations pour financer la retraite des gens qui partaient à ce moment-là. Et il a eu la chance de cotiser assez peu par rapport à ce qui touche aujourd'hui, compte tenu de l'équilibre démographique.
Oui, tout à fait.
Donc voilà.
C'est la vérité.
Oui, ce sont les retraités les plus heureux du monde. Ce sont bien les retraités français, sauf les retraités américains qui ont pu profiter effectivement de leur 401k pour sortir très tôt du marché du travail et profiter de leur capitalisation. Donc
capitalisation.
Si vous voulez, sur les finances publiques, de tout. De toute façon, la séquence à laquelle on assiste, on en a vécu à peu près une vingtaine depuis 40 ans, puisque tous nos ministres, la phrase...
Rarement aussi stressante.
La phrase, on va ramener le déficit public sous la barre des 3% d'ici 2-3 ans, elle a été prononcée par chaque ministre de l'économie. D'accord. Et comme ce gouvernement n'utilise pas des méthodes différentes que les autres gouvernements pour essayer de racler les fonds de tiroir, ça va produire les mêmes résultats, c'est-à-dire une dépense publique qui augmente continuellement et qui n'a jamais diminué depuis 1950, que l'INSEE mesure tout ça de très près. Et voilà. Et donc, tant qu'on ne reviendra pas encore sur ce sujet de se demander comment on peut avoir une action publique qui soit moins coûteuse et plus efficace, on n'y arrivera pas. Et donc, on va encore accumuler ces situations grotesques, sachant que je rappelle que le principal objectif d'un ministre, quand même, est le signe ultime de son pouvoir politique, c'est d'arracher le moins de coupes possible dans son budget. Donc, tant que vous ne sortirez pas de cette culture, vous n'avez aucune chance de voir les dépenses publiques diminuer.
Faut quand même rappeler que la France est le pays parmi les pays de l'OCDE et parmi les pays européens, le pays dans lequel les dépenses publiques en point de PIB sont les plus élevées.
10 points de plus que l'OCDE. 48 à peu près l'OCDE.
On n'est pas dans l'austérité et une gestion contracyclique des finances publiques, c'est pas simplement de dépenser plus quand la conjoncture est mauvaise. c'est aussi de dépenser moins quand la conjoncture est très bonne. Et ça, manifestement, on n'a pas su faire sur les dernières décennies. Donc on en paye le prix, parce que les gens nous regardent, les marchés nous regardent, et se disent, ben mince, il y a une dérive des finances publiques françaises et de l'endettement public en France. Pourquoi ? Eh bien parce que effectivement, il n'y a jamais eu de coussin qui a été constitué quand les choses allaient bien.
Trois réactions. Alors,
juste un point quand même. La solution à moyen et long terme, si on ne veut pas remettre en cause le système social français, ce sera uniquement par davantage de travail. Une augmentation du taux d'emploi en France. Je voudrais quand même signaler un tout petit calcul auquel je me livre depuis quelques mois. Si la France avait le taux d'emploi d'un pays comme les Pays-Bas, qui n'est pas l'enfer sur Terre, hein, 68% de taux d'emploi en France, 82% aux Pays-Bas. Même avec la durée du travail moyenne qui existe aux Pays-Bas, eh bien le produit intérieur brut en France serait augmenté de près de 15%. Et ça ramènerait dans les caisses publiques, sans rien changer au taux de prélèvement, 150 milliards par an de plus. Avec ça, on pourrait avoir des finances publiques en meilleur état, gérer le financement de la transition climatique, du vieillissement de la population, les attentes de gains de pouvoir d'achat, des réformes structurelles dans l'éducation nationale, par exemple. On pourrait financer cet ensemble de choses. La réponse structurelle à moyen terme, c'est l'augmentation du taux d'emploi en France.
On est bien d'accord.
Il n'y a pas d'autre.
Il n'y a pas des relations aussi entre le taux d'emploi et la pression fiscale et sociale, parce qu'on sait que la pression fiscale a aussi des pèses sur les incitations à produire.
Ah, donc, je suis complètement
d'accord. Est-ce que c'est pas le sapin qui se mord la queue ?
Complètement d'accord. Les prélèvements sont distorsifs et peuvent réduire l'offre de travail. Et puis par ailleurs, la distribution elle-même, c'est ce que dit le Premier ministre, peut désinciter certains, dans certains cas, à travailler.
D'où la question, peut-on augmenter le taux d'emploi sans remettre en cause certains aspects de notre modèle social ?
Bah, c'est ce que manifestement, dans le discours, en tout cas pour l'instant, c'est ce que les pouvoirs publics veulent faire, je crois.
On ne va pas couper au débat sur TVA ou CSG social. Ça va revenir, je pense que le truc... je ne sais pas si on le fera, mais en tout cas, je pense que c'est le débat qui va revenir en puissance. Sans le problème, Gabriel Attal n'arrête pas de dire quoi... Enfin, non, c'était Bruno Le Maire. On ne peut pas éternellement faire peser sur qu'est pratiquement exclusivement le travail l'ensemble d'une facture qui ne cesse de gonfler.
Le problème, Nicolas, c'est qu'au-delà de ce débat TVA, social, CSG,
c'est pareil.
Quand on parle des multiples transitions qu'on est en train de vivre, digitales, écologiques, etc., il va bien falloir aussi faire une transition fiscale. Puisque vous voyez quand même... que moi je ne crois plus du tout à cette idée de réforme de l'État, ni la baisse des dépenses, dans la mesure où quand vous regardez chaque poste budgétaire, il y a une telle pression aujourd'hui pour avoir une augmentation des dépenses, prenez la défense, prenez la santé, prenez la transition écologique, etc. Et donc on va avoir besoin quand même de dépenser plus. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette transition écologique et cette transition numérique, elles sont en train, alors qu'elles réclament de plus en plus de moyens, de nous supprimer les unes après les autres tout un tas sources de revenus fiscaux qui sont quand même très préoccupantes. Quand vous aurez la voiture électrique, qu'est-ce qui vous restera comme taxe intérieure sur les produits pétroliers ? Quand vous aurez l'intelligence artificielle, dont on peut penser quand même qu'elle va se substituer à un certain nombre d'emplois, est-ce qu'il ne faudra pas envisager une forme de revenu permanent, etc.
On va revenir à taxer les robots, là.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a moment où il va quand même falloir aussi s'interroger, dans ce monde en multiples transitions, sur les bases fiscales pertinentes qui seront celles du monde de demain. Et ça, c'est une réflexion, à mon avis, à laquelle on n'échappera pas.
Je te rassure, en France, on a toujours su trouver des nouvelles bases fiscales.
Effectivement, on a toujours été à la pointe de l'innovation.
De ce côté-là, on a toujours su trouver des nouvelles assiettes fiscales. Néanmoins, le point que je voudrais souligner dans les dépenses, un poste de dépense qui est considérable et qui n'a pas arrêté d'augmenter, c'est bien sûr celui de la masse salariale dans les collectivités locales.
Incroyable.
Les effectifs dans les collectivités locales ont augmenté dans des proportions considérables. La réponse à la taille massive, et, je veux dire énorme, de l'État dans un pays comme le nôtre, c'est évidemment une gestion plus forte, plus dure,
c'est sûr que si on
plus allante des collectivités locales et des embauches dans les collectivités locales, des effectifs dans les collectivités locales.
Gilbert, si on disait sur chaque dossier que doit gérer un fonctionnaire, ils n'ont pas besoin d'être deux ou trois en parallèle à gérer le même dossier, parce que finalement c'est souvent ce qui se passe aujourd'hui, parce que quand on a créé les intercommunalités, c'était censé finalement remonter or l'échelon local n'a pas diminué, et c'est ça qu'on voit dans les 60 000 créations d'emplois dans le secteur public en 2023. C'est ça qui est dingue, c'est qu'au moment où il y a la pyramide des âges qui fait partir plein de retraités, plein de fonctionnaires en retraite, on les remplace.
Donc, les effectifs de l'État diminuent.
Les effectifs de l'État diminuent, mais je parle là les collectivités.
Voilà, c'est les collectivités locales qui posent un vrai problème.
Bah oui.
Des réactions. Hein, il a cotisé pendant 40 ans, dit cet auditeur, par rapport à la réaction précédente d'un autre auditeur. Mais moi, je vais devoir cotiser 44 ans minimum pour recevoir beaucoup moins. Et puis Dom m'écrit, pourquoi vouloir toujours taper sur les retraités? Le régime Agir Carco est équilibré, ne coûte pas un centime d'argent public. Donc arrêtez d'incriminer les retraites et les retraités. C'est de la pure démagogie, Fergan. Arrêtez.
Bah, écoute, des cotisations.
Ce sont les chiffres. Quand on regarde effectivement le taux de cotisation des précédentes cohortes, il faut bien considérer qu'il y a un vrai problème d'équité intergénérationnelle. Et je ne pense pas que ce soit le président du corps qui me contredira.
Fergan, cette semaine, nous avons appris, quoi, grâce au cabinet, c'est Frank Knight qui a sorti une très belle étude en disant que la génération des milléniaux allait devenir la génération la plus riche de
l'histoire. Oui, ceux qui est né en 80, entre 80 et 2000.
Et parce qu'ils vont hériter, évidemment, de la génération des boomers.
Mais là, vous voyez, c'est déshabillé. Enfin, on peut très bien aussi se dire que si là, on n'avait pas piqué le pognon en amont, on n'aurait pas besoin d'héritage.
C'est une inégalité sociale terrible, puisque, évidemment...
Ceux qui héritent ne sont pas les mêmes que ceux à qui on...
Non mais Fergan, quand même un point qui est à souligner, que je voulais dire tout à l'heure. Quand on regarde le ratio des dépenses de retraite par rapport au PIB, 14%, bon, c'est vrai qu'on peut se dire que par rapport à d'autres pays, c'est élevé. Pour moi, c'est élevé, pas simplement et pas surtout à cause du numérateur, les pensions versées, c'est à cause du dénominateur, c'est ce que je voulais, le point sur lequel je voulais insister tout à l'heure. Avoir plus de produits intérieurs bruts par une participation plus forte sur le marché du travail, ça réduit, sans rien changer aux prestations de retraite, ça réduit le coût des retraites pour la collectivité, pour le pays. Et c'est ça qui doit être visé, justement, pour que des postes sociaux comme celui-là voient leur part dans le PIB diminuer, c'est l'augmentation du dénominateur du PIB. Comment ? Par plus de travail.
Le numérateur a aussi un impact sur le dénominateur.
Bon. Alors, puis par ailleurs, cette augmentation, quand même, sur des décennies, c'est la montée en puissance des régimes de retraite. Faut pas penser que c'est une générosité des régimes de retraite. C'est leur montée en puissance. Enfin, qui explique cette
pas
augmentation
la même progression dans les autres pays développés. Il y a quand même une singularité française de ce point de vue.
Il y a la volonté d'avoir un taux de remplacement élevé.
Et encore une fois, je te rassure, quand on voit les projections, même les plus optimistes, le niveau de vie moyen des retraités par rapport aux actifs va très nettement diminuer sur les prochaines décennies.
Moi, je ne dis pas que les retraités sont trop riches. Hein. Je dis qu'ils sont trop riches dans le cadre d'un système de retraite par répartition. C'est-à-dire que si on était dans un système de retraite par capitalisation et que les pensions étaient la contrepartie d'investissements productifs, aucun retraité ne serait trop riche. Au contraire, dans un système par capitalisation, on n'est jamais assez riche puisque la richesse n'est pas un jeu à somme nulle dans cette configuration-là. Simplement, nous avons fait le choix d'instaurer un système de retraite qui est un jeu à somme nulle entre actifs
sont en train
et retraités. Donc, moi, je ne dis pas que les retraités sont trop riches. Je pense au contraire qu'ils seraient encore beaucoup plus riches.
Nos amis allemands sont en train de proposer d'ajouter finalement
un fonds souverain.
Capitalisation avec un fonds souverain.
Oui, mais un fonds souverain qui ne place pas l'argent des salariés, qui place de l'argent public.
C'est quand même.
À grande échelle, c'est notre FRR.
Oui, mais nous, notre FRR, il a 25 ans, il y a 21 milliards dessus. Eux, en 10 ans, ils escomptent 200 milliards d'euros.
C'est comme quand on passe son temps à pomper l'assurance vie, l'épargne, ou son livret A. Ça peut pas.
Le fonds allemand, il est censé en 2035 atteindre 200 milliards d'euros et pouvoir délivrer 10 milliards par an. Pour payer les retraités en Allemagne.
Alors, simplement, quand on a dit ça, comment faire monter un système par capitalisation quand existe déjà... Ça veut dire que des gens voient leur niveau de vie baisser transitoirement.
J'ai un petit avis sur celui qui doit payer.
Cette transition est en train.
Il a un avis sur celui qui doit payer, je vous laisse deviner. Justement, pour éviter cet effet transition, c'est pour ça que le gouvernement allemand a décidé qu'il allait abonder ce fonds avec de l'argent public. On doit s'arrêter.
Sachant qu'ils en ont sous les pieds, en termes de finances publiques.
Voilà. Eux, ils sont en train de dépenser 12 milliards et nous, on va aller essayer de les économiser.
Ils en ont sous les pieds en termes de finances
publiques. C'est fini. Fergan Aziari, Gilles Berset, Emmanuel Lechypre, merci. Lundi, rendez-vous 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.